Chapitre 11. Et nous attendîmes longtemps. J'ai depuis lors attendu souvent dans ma vie, et bien des choses qui ne sont jamais venues, mais aucun jour aussi intensément que celui-là. Quand on est jeune, le temps donne l'impression d'être immense. À mesure que l'on grandit, c'est lui qui se rapetisse. Il devient mesquin et court. Il se réduit à notre misérable proportion. Cependant, la veille déjà, j'avais compté les minutes. Hélas, c'était alors une attente noire comme un trou de mine, aveugle, menaçante, tandis que maintenant elle était lumineuse, gaie comme un jardin en fête, mais si fiévreuse, si impatiente. Et je ne sais combien cela dura. Papa, pour cacher son trouble, se tenait derrière un journal grand ouvert, comme s'il avait eu la tête à surveiller les agissements de Guillaume II. Moi, j'avais l'air de jouer, mais ni l'un ni l'autre, j'en suis sûre, nous ne songions à ce que nous faisions. Nous avions Louis en suspens, nous guettions les moindres bruits de l'escalier. Et puis, cela arriva comme un coup de foudre. Nous n'avions rien entendu quand le coup de sonnette nous mit debout. Et nous voici tous deux à la porte, et nos mains se cognaient en tâtonnant pour trouver la serrure. Enfin, nous pûmes ouvrir et maman fut dans nos bras. Je crois bien que nous pleurions un peu, et il me semble qu'en embrassant son mari, elle lui dit « Pardon, Joseph, mais je n'en étais pas sûre, et j'en doute tout à fait aujourd'hui. » Quand nous nous retrouvâmes tous les trois au salon, maman nous raconta longuement l'emploi de son temps depuis la veille, et comment, affolée par la scène de son mari, et ne pouvant lui prouver, malgré les apparences contraires, qu'elle n'avait aucun tort, elle avait couru chez madame de Tulle, qui avait pris soin d'elle, l'avait consolée, et lui promettant de tout arranger, retenue jusqu'à ce matin. Elle ne nous dit pas pourquoi elle n'était pas rentrée la veille, et papa ne le lui demanda point. Je supposais qu'elle avait dû arriver chez madame de Tulle trop tard pour revenir ensuite chez elle. Mais qu'avait-elle fait avant de se rendre chez madame de Tulle, puisque j'avais bien compris, malgré ses paroles, qu'elle n'était pas partie pour aller chez elle. Cependant, maman nous donnait de longues explications sur sa journée, et à l'entendre, elle avait tout à fait l'air de dire la vérité. Et mon père buvait toutes ses paroles. Je compris ce jour-là qu'il l'aimait et ce qu'il avait dû souffrir de sa fugue. Mais je compris aussi que ce n'est pas tout que d'aimer et qu'il faut être adroit avec les êtres et que lorsque cette crise serait complètement finie, il ne serait pas plus habile ni plus fin avec elle. De tout ce qui s'était passé pendant le repas et de la terrible lettre, nul ne souffla un mot. Avant de se mettre à table, ils allèrent un moment dans leur chambre et ils causèrent à voix basse pendant une demi-heure. Quand ils revinrent, maman avait l'air radieux et elle avait remis toutes ses bagues, laissées la veille sur la cheminée. Je m'étonnais un peu, dans mon ingénuité, que papa, qui avait souvent tenu rigueur à sa femme pour des vétilles, ne lui en voulût pas davantage de nous avoir laissés dans l'incertitude et l'angoisse pendant près d'un jour. Mais aujourd'hui, je ne m'étonne plus de rien, et je ne savais pas alors que lorsque l'on a imaginé le pire malheur, on est tout content d'en avoir eu un moindre. Élise, pendant le déjeuner, promenait sur nous des regards sournois. Elle ne comprenait plus du tout ce qui s'était passé, mais qu'avait-elle besoin de comprendre ? Après le café, mon père s'excusa de partir plus tôt que de coutume. Il n'était pas allé au bureau le matin et il était pressé de voir ce qu'on avait fait sans lui. Il embrassa longuement sa femme, comme pour s'excuser de ses soupçons et des torts qu'il avait eus envers elle. Maman envoya Élise chercher son sac chez madame de Tulle, surtout, je pense, pour bien lui prouver que c'était là qu'elle s'était réfugiée. Et puis, elle resta oisive et rêveuse. Elle n'était plus gaie comme tantôt. Elle avait cet air que l'on prend lorsque l'on vient d'accompagner quelqu'un dans une gare et que l'on rentre chez soi, sans but, sans désir, tout entier encore au bruit cruel des portières que l'on ferme et au sifflet des machines. La brise jouait avec un des rideaux de la fenêtre ouverte. J'étais assis sur le canapé et je regardais maman. Comme elle avait l'air souffrant et triste, elle était pâle, d'une sorte de pâleur grise que je ne lui avais jamais vue. Un large cercle noir entourait ses paupières. « Tu n'es pas contente d'être revenue ici ?» lui dis-je avec un douloureux élancement au cœur. Elle eut un sourire contraint. « Mais oui, mon petit, tu as l'air fatiguée. Je n'ai pas dormi cette nuit. » Je n'osais insister. Je sentais bien qu'autour de moi se jouaient des puissances plus fortes que nous, et j'en avais peur. Il y avait encore bien des choses menaçantes dans l'air de la maison. Je croyais qu'une fois maman revenue, tout irait pour le mieux, et que ce passé équivoque serait aboli. Déjà, je n'y songeais plus, et papa ne semblait pas s'en souvenir. Mais qu'avait-elle donc, maman, à ne pas oublier ? Quoi ? C'était là tout son plaisir d'avoir retrouvé son intérieur, son fils, des souvenirs précieux et doux. Et j'étais sourdement furieux. Mais quand je levais les yeux sur elle et que je voyais son air absent, ses yeux vides et meurtris, sa lassitude, j'avais envie de l'embrasser parce que je comprenais qu'elle avait un grand chagrin qui devrait toujours, toujours rester inconnu. À la fin, elle se leva et vint vers moi, comme si elle comprenait mes tristes pensées. « Et vous, qu'avez-vous fait ici ? » demanda-t-elle en s'asseyant près de moi et en me prenant sur ses genoux, bien que je fusse bien grand pour cela. Alors je lui racontai la manière dont j'avais reçu papa à son retour, et son trouble, et notre attente, et cette interminable nuit d'été, et nos rêves. Parfois elle souriait et paraissait toute joyeuse quand je lui disais que j'avais rapporté textuellement ses propos à mon père. Tantôt elle soupirait et je voyais ses yeux s'embuer d'une sorte de brouillard. Lorsque j'eus terminé mon récit, elle me serra passionnément contre elle. « Mon pauvre petit, tu ne m'en veux pas trop ?» Je l'embrassai pour toute réponse. « Je t'ai fait souffrir, c'est vrai. Pardonne-moi, mais j'ai tant souffert aussi. Vois-tu, la vie n'est pas comme on la rêve. C'est une pauvre chose. Maintenant, je n'ai plus d'illusions. » Elle se mit à pleurer. Quelle poupée avait-elle donc encore cassée, la pauvre enfant ? « Quand tu seras grand, me dit-elle, ne promets jamais rien à personne. C'est trop dur ensuite, lorsque l'on voit qu'on s'est trompé. » Et que les gens qui vous ont promis ne peuvent pas tenir. C'est lâche. On prend les femmes comme ça, avec des promesses et des serments, et l'on ne se soucie guère ensuite de leur faire de la peine ou non. Je sais bien qu'on n'a pas toujours de la mauvaise volonté. Il y a des cas vraiment où l'on ne peut pas faire ce que l'on désire. Mais alors on ferait bien mieux de laisser les gens tranquilles et de ne rien leur promettre. Ne prends jamais cette responsabilité, Léon. C'est trop cruel. » Elle parlait rêveusement, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'autre que moi. Sans doute s'adressait-elle au Léon, qui, jeune homme, s'en irait un jour, échappé à sa surveillance, la moustache au vent, et possesseur à son tour de ce je ne sais quoi de terrible et de doux qui fait pleurer les jeunes femmes. « Non, répétait-elle, il vaut mieux dire la vérité tout de suite, et qu'on ne peut rien et ne pas s'engager. Parce qu'après, quand on s'en va, on sent que la vie est finie, et c'est atroce. Toutes les maisons semblent se fermer devant vous. » Je ne comprenais plus rien. N'était-elle pas allée chez Madame de Tulle ? Je le lui demandais. « Oui, je suis allée alors chez Madame de Tulle. Mais si je n'avais pas eu une amie aussi fidèle, aussi dévouée, où aurais-je fait tête ? Et si Gabriel n'était pas venu tout arranger ici ce matin ? » Elle ne poussa pas plus loin ses hypothèses et elle passa dans son cabinet de toilette où je l'entendis remuer de l'eau et agitait des flacons. Et j'éprouvais dans ma joie une subtile tristesse qui l'empoisonnait, comme cette odeur amère qui, cachée dans les plis somptueux d'une belle étoffe ancienne, nous donne un sentiment de mélancolie, même quand sa vue magnifique nous enchante. C'est que dans toute ma sensibilité enfantine, bouleversée et pour ainsi dire mise à nu par les récents événements, et plus affinée encore par l'angoisse, la fatigue physique et la première perception de malheur trop lourd pour les faibles épaules humaines, j'avais entrevu cette chose effroyable qu'est l'isolement de chaque être et son caractère incommunicable. Mais je ne saisissais pas alors, comme je l'ai deviné depuis, que cette torture de la solitude morale où nous nous débattons à mort, je ne l'avais que parce que ma mère en avait souffert plus que moi et avait tout fait, hélas, pour échapper à son angoisse. Et j'avais la sensation douloureuse, humiliante, toute neuve, que je n'étais pas tout dans la vie de ma mère, qu'elle avait des préoccupations, des soucis et des actes qu'elle me cachait et qui n'avaient pas ma personne pour unique objectif. Et depuis, toujours, dans toute affection, dans tout amour, j'ai retrouvé cette émotion abominable, ce goût de cuivre dans la coupe d'or, la pensée que l'on n'est jamais que peu de choses dans la vie de l'être que l'on adore et qui nous adore, et que l'on ne connaît presque rien de celui que l'on aime le mieux, et que l'homme est intransmissible à l'homme, et qu'il n'y a peut-être pas eu au monde deux cœurs qui se soient entièrement compris. Mais maman voulait changer de robe, et je quittais sa chambre. Au long de l'abominable nuit, j'avais rêvé que ma mère, de retour, ce serait une fête perpétuelle, que toutes les difficultés seraient aplanies, et qu'il n'y aurait plus que du bonheur dans la maison. Et voici que maman était revenue, et mille inquiétudes et mille ennuis vagues flottaient dans l'air, et j'étais triste et vaguement endolorie. Ce qui est advenu, on n'efface pas le passé. Désormais dans ma vie, comme dans celle de mon père, il y aurait toujours, toujours, ce souvenir que maman s'en était allée, un jour, et que toute une nuit, nous n'avions pas su si elle reviendrait ou non. Pour la première fois, j'avais eu l'impression que rien n'est solide sous les pas, que tout est bâti sur le sable et que les plus solides fondations ont une base fragile et chancelante. Fragile et chancelante, ma mère l'avait été et toute la maison avec elle. Maintenant, l'édifice semblait renforcé. La grande tourmente avait passé et l'avait laissée intacte après l'avoir ébranlée et lézardée. Mais qui nous promettait qu'il ne surviendrait pas quelque tempête nouvelle, quelque orage plus fort et plus brutal qui emporterait tout cette fois? Là-dessus, on sonna et Élise introduisit ma tante Trémla. Je ne l'avais jamais vue aussi rouge. Elle semblait sur le point d'éclater. De petites gouttelettes couvraient son visage comme l'envers d'un couvercle de bouilloire quand l'eau bout. Elle cria aussitôt d'une voix aigre. « Eh bien, Jeanne, qu'est-ce qui vous arrive? On ne vous voit plus. Voici 3 jours que Joseph n'a pas paru, ni vous non plus. Ma parole, on pourrait crever sans que vous daigniez seulement faire un geste de la main. » Maman, décidée à rester calme à tout prix, sa situation n'était pas déjà si fameuse, avait passé une de ses bouclettes autour de son doigt et l'y enroulait lentement. « Il fait si chaud, nous ne sortons pas beaucoup. » « À d'autres !» s'exclama ma tante en fureur. « Vous étiez hier au bout de la ville, à 5 heures. On vous a vu. Vous descendiez les allées pour prendre une petite rue. Vous n'aviez pas si chaud par conséquent. » Maman devint pourpre et je la regardais avec stupéfaction. Ce n'était pourtant pas dans ce quartier qu'habitait madame de Tulle. Je cherchais une brodeuse dont on m'avait donné l'adresse. Une brodeuse, hier, avec tout ce qui s'était passé? J'eus un sentiment d'accablante tristesse. Maman mentait. Je la regardais encore, et alors elle jeta sur moi un regard si suppliant et si navré que je baissai les yeux et n'osais plus d'un moment les lever sur elle. Tout cela était au-dessus de mes forces. « Puisque vous alliez si loin chercher une brodeuse, fit ma tante en ricanant, vous auriez aussi bien pu venir chez moi. Et ce petit, toujours aussi palot, tu ferais bien mieux de prendre exemple sur tes cousins, Léon. Eux au moins, ils sont robustes et ils ont de belles couleurs. Mais vous aussi, Jeanne, comme vous êtes pâle, je ne sais pas ce que vous avez tous à être vert comme cela. On dirait que vous avez veillé un mort. » N'était-ce pas un rêve mort que chacun de nous avait veillé, en effet, cette nuit-là, dans le regret et dans l'angoisse? Vous feriez bien mieux de faire vos paquets et de venir nous rejoindre en Savoie. Nous partons lundi prochain. Arrangez-vous pour être prêts. Nous filerons ensemble. J'en dirai un mot à Joseph. Joseph ne compte pas aller en Savoie cette année-ci, répondit ma mère. Et pourquoi? Il ne peut pas s'absenter longtemps. Nous ferons un petit voyage. D'ailleurs, Joseph préfère passer quelques jours dans un endroit où nous soyons seuls. Je crus cette fois que ma tante Trémela allait éclater comme une chaudière. Elle s'écria d'une voix tonnante. « Seul? Cela signifie un endroit où vous ne serez pas avec nous? À votre aise, ma chère. Il paraît que notre société vous est pénible, puisque nous vous gênons à ce point. Il faut le dire carrément. Nous n'avons qu'à ne plus nous voir. C'est bien facile, ce n'est pas moi qui le regretterai. » Ni moi, aurait pu répondre ma mère, si elle avait répondu avec franchise. Mais elle se contint, déguisa son sentiment et répondit avec une grande douceur. « Ce n'est pas cela que j'ai voulu dire, Irma. Vous n'avez pas compris ma pensée. Joseph ne veut pas passer 2 mois dans un hôtel où il y a du monde, où il faut s'habiller, causer, voir des êtres indifférents. Vous savez comme il est sauvage, et cette année, il est vraiment fatigué. Il a besoin de repos. » Ma tante Trémela finit par s'apaiser, et après avoir décoché quelques méchancetés vagues sur les femmes qui n'ont pas de tête, et les enfants qui n'ont pas de santé, et les gens qui ne veulent jamais qu'écouter leurs caprices, et sur les rues où on ne sait jamais ce que vous faites, elle s'en alla. Et maman s'étendit sur sa chaise longue et regarda la journée qui s'en allait comme un fleuve s'écoule, emportant à la dérive tant de choses qui ne reviendront plus et que la grande mère attend pour les engloutir à jamais. Papa rentra plus tôt que de coutume. Il était si content de trouver sa femme et son fils dans ce foyer qu'il avait cru détruit qu'il ne semblait se souvenir de rien. Maman lui raconta la visite de ma tante avec ses diverses péripéties, en omettant toutefois la rencontre inattendue de la veille. Mon père fut héroïque et tout à fait à la hauteur des circonstances. « Irma nous embête, » proféra-t-il, « et si elle continue, j'irai lui dire qu'elle ne mette plus les pieds ici. » Nous savions bien, maman et moi, qu'il n'en ferait rien. Mais un tel propos était le plus grand sacrifice qu'il pût faire à sa femme, et je crois qu'elle lui en fut reconnaissante. Nous passâmes dans la salle à manger. La soupe trop chaude fumait vers le plafond. Aucun air frais n'entrait par la fenêtre ouverte. Le ruisseau de la rue tintait gaiement sur les cailloux. On entendait jouer du piano quelque part, et cela donnait cette sorte de mélancolie, oisive et douce, des musiques qui s'évadent dans la nuit d'été. Maman luttait contre le sommeil. Ses paupières se fermaient malgré elle. Elle laissait lentement tomber sa tête, puis réveillée en sursaut, la relevait et riait. « Comme j'ai sommeil, » dit-elle. « Tu ne manges pas, Jeanne ? J'ai trop sommeil. » Elle lutta un moment encore, puis enfin se laissa aller et s'abandonnant doucement, ah, plus doucement qu'un enfant, elle posa ses 2 bras sur la table et son front sur ses bras. « Laisse-la dormir, » me dit mon père. Nous finîmes de dîner sans bruit, avec des gestes délicats et muets comme en ont les chats, tant nous craignions de troubler le repos de celle qui dormait. Et après avoir plié sa serviette, mon père s'approcha de sa femme, la souleva, je ne l'aurais jamais cru aussi robuste, et l'emporta dans sa chambre pour la coucher. Maman eut un petit mouvement comme pour se réveiller, puis, avec un geste inconscient et câlin, elle rejeta sa tête décoiffée et lourde contre l'épaule de son mari.